Chers amis, dans notre dernière conférence, nous avons vu la joie avec laquelle le cœur de Jésus ne cesse de nous aimer, la joie qu'il a d'habiter notre cœur, la joie qu'il a de recevoir notre amour, la joie de vivre un voyage de noces avec nous et avec chacun d'entre nous, sa grande joie. Mais n'oublions pas une joie encore plus grande, celle qu'il avait d'être sans cesse en relation avec son Père, c'est le Fils bien-aimé. Plus encore que la joie de vivre avec nous, il a la joie de vivre sans cesse avec son Père. Mon Père demeure en moi et je demeure en lui. C'est ce que nous allons voir dans cette conférence. Elle comportera deux parties. Nous verrons d'abord la joie habituelle qu'avait Jésus de vivre avec son Père, de l'adorer, de se prosterner devant lui. Et puis, dans une deuxième partie, nous verrons la joie qu'il a eue aussi de faire la volonté de Dieu. Il est d'ailleurs venu aussi, et peut-être d'abord pour cela, enfin quelqu'un qui va toujours dire oui à la volonté du Père. Car aimer Dieu, ce n'est pas seulement avoir du plaisir à vivre avec lui et à l'adorer, c'est aussi faire sa volonté, même quand celle-ci nous paraît contraire à nos désirs. Quand il s'agit de souffrir, quand il s'agit de monter au calvaire. Donc, voyons d'abord la joie habituelle que Jésus avait de vivre continuellement avec son Père. Sa joie, mais aussi, nous verrons pourquoi il pouvait souffrir quand il pensait, évidemment, à la façon dont son Père n'était pas aimé sur la terre. On peut résumer cette façon de vivre de Jésus par un mot qu'il dit un jour au petit Van, à Marcel Van. « Ma vie a été douloureuse, mais pas malheureuse. J'ai toujours été heureux sur la terre, mais j'ai aussi beaucoup souffert. » Jésus a été comme les saints, enfin, un peu comme les saints, bien mieux que les saints. Mais Jésus, il a su ce que c'était que de souffrir et d'être heureux. La souffrance et la joie, qui sont compatibles. Elles sont compatibles dans une vie humaine, elles sont compatibles dans la vie humaine de Jésus. Voilà. Alors, commençons par la souffrance de Jésus. Et oui, Jésus a souffert dès les débuts de son existence. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé un jour à Sainte Marguerite Marie de représenter son cœur couronné d'épines. Couronné d'épines, mais c'est ta tête, lui dit Marguerite Marie, qui a été couronnée d'épines, pas ton cœur. Si, Marguerite, je te demande de représenter mon cœur couronné d'épines, car ma tête n'a souffert que, vraiment souffert que les quelques heures de ma passion, le jeudi et le vendredi saint, tandis que mon cœur a souffert tout le temps. Mon cœur a souffert tout le temps. J'ai connu la souffrance dès le début de mon existence. Et pourquoi ? Eh bien parce que très vite, je me suis rendu compte que mon Père n'était pas aimé par les hommes. La souffrance de Jésus sur terre, c'est de voir que les hommes ne connaissent pas son frère, ne connaissent pas son Père, ou s'ils le connaissent, ils ne se prosternent pas devant lui, ils ne l'aiment pas, ils ne pensent pas à lui. Il a souffert aussi en entrevoyant toutes les souffrances, qu'à cause de leur péché, ils seraient obligés de souffrir. Il a entrevoyé ces souffrances du calvaire. Et puis, il a entrevu aussi les souffrances que subiraient les hommes, soit à cause de leur fidélité héroïque à l'Évangile, qui pourrait les amener à souffrir le martyr, soit à cause de leurs multiples ingratitudes et des conséquences néfastes qui s'en suivraient pour eux. Donc Jésus a vraiment souffert dans son âme humaine, de voir que son Père n'était pas aimé et de voir que lui-même devrait souffrir à cause du péché des hommes. Deuxièmement, Jésus a été tenté. Nous le verrons davantage dans la deuxième partie de cette conférence. Mais disons tout de suite que Satan a essayé de détourner Jésus de sa mission de sauveur. Il s'est efforcé de le persuader qu'il n'était pas obligé de prendre les moyens indiqués par les textes prophétiques concernant le serviteur souffrant. Et cette tentation, Jésus l'a connue toute sa vie. Mais les évangiles nous indiquent les moments clés où cette tentation est devenue plus insistante, durant sa retraite au désert. Carie est parti au désert après avoir été baptisé par Jean-Baptiste pour lutter contre Satan. Après le succès de la multiplication des pains, Satan lui a dit « Mais multiplie les multiplications des pains et tu auras du succès. » Et surtout, la façon tragique, quand, dans l'agonie, il a vraiment du mal à accepter la volonté de Dieu qui l'oblige, qui lui demande de monter au calvaire. Voilà, nous reviendrons alors sur cette tentation de Jésus. Comme Jonas, comme Élie, comme tant de prophètes, le Fils bien-aimé a été tenté de se décourager devant l'inutilité apparente de sa prédication. Comme le prophète Isaïe le dit dans le chapitre 49 de son livre, « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour rien que j'ai usé mes forces. » Mais comme le prophète, Jésus a entendu la réponse de son Dieu, « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Et ce fut le oui total et définitif à la volonté du Père, ce oui filial plein de confiance et d'amour qui, nous le verrons, a réparé tous nos refus, toutes nos désobéissances, tous nos blasphèmes. Et puis Jésus a connu une terrible agonie au jardin des Oliviers. Il a senti peser sur lui toute la colère du péché contre le péché du monde. C'est une chose que nous avons du mal à réaliser. Jésus, qui a horreur du péché, Dieu a horreur du péché, et Jésus a participé dans son âme lui-même à la colère de Dieu contre le péché des hommes. Et c'est en ce sens-là que l'apôtre saint Paul a pu dire que celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. C'est-à-dire que Dieu a permis que son Fils fasse l'expérience terrible du pécheur qui souffre d'être séparé de lui. Oh, Jésus n'a jamais été séparé de son Père, mais il a connu ce que pouvait être la souffrance d'un homme qui se perd et qui perd l'amitié de Dieu, qui se sent privé de Dieu. C'est un mystère énorme que les saints ont connu, que les grands mystiques ont connu. Le Padre Pio, par exemple, 3 mois avant de recevoir les stigmates, a l'impression que Dieu le rejette. Que Dieu le rejette. Je sens que le Seigneur déploie toute sa puissance pour me punir. Il me rejette et me persécute. Oh, je n'en peux plus, écrit-il à son père spirituel. Celui-ci lui répond aussitôt, « La justice n'a rien à venger en toi, mais dans les autres. Mais toi, comme victime, tu dois payer pour tes frères ce qui manque encore à la passion de Jésus-Christ. » Voilà. Eh bien, Jésus a connu cette terrible souffrance. Il a voulu connaître quelque chose de la souffrance de celui qui se sépare de son Père. Mais n'en concluons surtout pas que Jésus se soit senti abandonné par son Père. D'ailleurs, le seul moment où nous voyons Jésus appeler Dieu « Abba, Papa », c'est au moment de son agonie, au jardin de Gethsémani, chapitre 14 de l'Évangile selon saint Marc. Et c'est qui au calvaire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début du psaume 22. Mais Jésus sait très bien comment le psaume se termine. Un jour, le monde entier reviendra vers Dieu. Donc il sait très bien que le psaume, s'il commence par un cri de désespoir, et de souffrance, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné comme ça à la souffrance des hommes ?» se termine par un cri de victoire. Voilà. Donc Jésus a su ce que c'était que la souffrance. Mais bien sûr, Jésus a connu et connaît encore une joie infinie dès cette terre. Il était déjà au paradis en quelque sorte, puisqu'il se savait le Fils bien-aimé du Père. Nous nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne le sentons pas comme Jésus. Jésus jouissait de toutes les délices de la Trinité. Il se savait, il sentait peser sur lui toute la tendresse de Dieu. Et la tendresse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand il proclamait les béatitudes, il parlait d'expériences bienheureux, bienheureux. Lui, il sentait ce que c'était que la béatitude du pauvre devant son Père. La béatitude d'avoir un cœur pur, plein de miséricorde et de douceur envers tous. Et dans l'évangile de Jean, nous voyons souvent Jésus confier à ses disciples la source de sa joie profonde. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et sa joie, c'était de passer des heures à adorer son Père. Imaginons Jésus prosterné sur une petite colline aux environs de Nazareth, prosterné pendant des nuits entières pour adorer son Père. Car n'oublions pas que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Vous êtes devant le tabernacle, par exemple. Vous vous prosternez devant le tabernacle pour adorer Jésus en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais que fait Jésus dans tous les tabernacles du monde ? Il adore son Père. Quand vous êtes devant le très sacrement exposé, dans une nuit ou une journée d'adoration, celui qui adore davantage le Père, c'est Jésus. Jésus, éternellement, sera le grand adorateur du Père. Sa joie, c'est d'adorer le Père. Tout petit devant toi, me voici, Seigneur. Il est à la fois celui qui est adoré par tous les anges et tous les saints du ciel, et celui qui adore le Père avec les anges et les saints du ciel. Voilà, heureux, heureux d'être le Fils bien-aimé du Père et de l'adorer. Heureux aussi, nous verrons, de réconcilier le monde avec lui, puisque nous verrons que son acceptation de la volonté de Dieu a été un acte extraordinaire qui a réconcilié le monde avec lui. Et puis, elle a été heureuse, durant sa passion, de la vivre pour chacun d'entre nous. Il a pu penser à chacun d'entre nous, comme le chant de saint Paul. Je vis en la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et les saints savent que Jésus n'est pas mort pour la multitude des hommes, comme ça, il est mort pour chacun d'entre nous. Et c'est en ce sens-là que Pascal a pu dire que Jésus a versé telle goutte de sang pour chacun de nous et qu'il a pensé à nous dans son agonie. Et Thérèse de Lisieux chante plusieurs fois dans ses poèmes cette joie du Seigneur. Quand elle regarde par exemple la statue de l'enfant Jésus, elle sait que Jésus a été heureux de vivre sa passion pour elle spécialement. Dès son entrée dans le monde, nous dit la lettre aux Hébreux, il s'est offert en sacrifice à son Père. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et c'est pourquoi dans les icônes de la Nativité, le berceau du Christ a la forme d'un autel. L'enfant Jésus qui vient de naître s'offre déjà à son Père. Il sait tout au fond de sa conscience humaine de fils bien-aimé du Père qu'il est la future victime du calvaire. Voilà, donc tout en tremblant d'effroi et d'angoisse à Gethsémanie, Jésus est allé vers son supplice dans la joie. Et c'est la raison pour laquelle les artistes n'ont pas hésité à mettre souvent un sourire sur les lèvres du crucifié. Torturé qu'il était, Jésus devait grimacer. Mais ce sourire qu'on met sur les lèvres du crucifié manifeste le sourire intérieur qu'il avait, la joie qu'il avait de souffrir par amour de son Père et par amour pour chacun d'entre nous. Thérèse de Lisieux avait beaucoup apprécié une réflexion de l'amener qu'elle avait trouvée dans son imitation de Jésus-Christ. Notre Seigneur, au jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Un texte que ne manquait pas de citer Jean-Paul II dans la lettre qu'il avait écrite pour le troisième millénaire. Il rappelle que la sérénité des saints, dans leur nuit obscure, s'explique par le fait qu'ils avaient conscience de participer ainsi à l'expérience de Jésus sur la croix, Voilà. Et c'est pourquoi on voit Jésus dans la petite statue qu'on appelle la statue de l'enfant Jésus de Prague, bénissant le monde de la main droite et tenant le globe de la main gauche, tout heureux de vivre son obéissance au Père. Voilà quelques mots sur la façon dont Jésus a vécu sa relation avec son Père tout au long de son existence. Voyons maintenant la chose essentielle qu'il est dû faire sur la terre. Il est venu vivre à fond la providence. Il a vécu à fond le oui que tout homme doit faire à la providence de son Père. Rappelons ce qu'est ce mystère de la providence, que nous avons tous beaucoup de mal à vivre. Et disons-le tout de suite, c'est grâce à Jésus que nous arrivons, nous aussi, à dire oui à la volonté du Père, à dire que ta volonté soit faite. Ce mystère de la providence, il est comme résumé par une formule du credo, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Et quand le catéchisme de l'Église catholique commande cette formule, elle se sert de ce que disait saint Augustin à ce sujet. Dieu infiniment bon et infiniment puissant ne permettrait jamais l'existence d'un mal s'il n'était capable d'en faire sortir un bien. Le mal reste le mal, le cancer reste un mal, la guerre reste un mal, ainsi que les épidémies, mais d'une façon qui nous échappe, Dieu ne permet l'existence de ce mal que parce qu'il sait que peut en sortir un bien plus grand. Quel mystère, quelle bonne nouvelle, à laquelle malheureusement des chrétiens n'osent plus croire à cause des difficultés, des épidémies et de tous les malheurs de l'humanité. Attention, le mal reste un mal. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens passent le plus clair de leur temps à combattre ces maux sous toutes leurs formes. Bien sûr, le chrétien est un combattant, un lutteur. Il lutte contre toutes les formes de mal, que ce soit les maux physiques, la maladie, ou que ce soit les injustices. Et c'est pourquoi il ne faut surtout pas s'imaginer que le chrétien se résigne à l'existence du mal. Pas du tout. Nous le savons bien. D'ailleurs, l'Église s'est toujours manifestée par tout ce qu'elle a fait pour lutter contre le mal. N'oublions pas que pendant très longtemps, les hôpitaux s'appelaient des hôtels-dieu, dirigés par des prêtres et des religieuses. Voilà. Mais la Bible, déjà l'Ancien Testament, dans le livre de Job, nous dit que nous devons accepter les malheurs comme les bonheurs de la main de Dieu. Ce que dit Job à sa femme, qui a du mal à y croire. Quand il perd tous ses biens, quand il perd la santé, quand il perd ses enfants, il continue à bénir Dieu, parce qu'il sait que Dieu continue à l'aimer et que s'il permet cela, c'est pour son bien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, capable de faire sortir un bien du mal. Dieu veille donc avec une attention toute particulière sur le cours des événements et l'existence de chacune de ses créatures. Lorsque Job perd ses enfants, ses biens et sa santé, il ne dit pas « Le Seigneur me les a donnés » et le démon me les a ôtés. Non, c'est le Seigneur qui me les avait donnés, et c'est lui qui me les a ôtés. Que son nom soit béni. Et par conséquent, il faut remarquer avec saint Thomas que ce n'est pas Satan qui, par sa démarche, obtient du Seigneur l'autorisation de tenter Job. Dieu ne cède pas aux instances de Satan, comme il arrive qu'un chef d'État cède aux pressions de l'un de ses ministres. Non, l'initiative vient de Dieu. Les démons eux-mêmes, qui ne cessent de désobéir à Dieu, exécutent sans le savoir les desseins du Créateur. La permission divine de l'activité diabolique, dit le catéchisme, est un très grand mystère, mais qu'il faut continuer à professer. Et la parole la plus explicite de l'Écriture sur le mystère de la Providence, c'est la prière que Jésus a faite au Jardin des Oliviers. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus reconnaît donc la volonté de son Père dans la passion qu'il s'apprête à subir et qui est bel et bien déclenchée par la mauvaise volonté de ceux qui l'arrêtent, le condamnent et vont le faire mourir, et finalement par la volonté du prince des ténèbres qui a suscité tout ce drame de la passion. Saint Pierre ne dira pas autre chose dans le premier discours, dans la première homélie de l'histoire de l'Église, le jour de la Pentecôte. Que dit Saint Pierre aux gens de Jérusalem le jour de la Pentecôte ? Jésus de Nazareth, Dieu lui avait donné de faire au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes. Vous le savez tous. Cependant, vous l'avez livré. Vous l'avez fait supplicier et mourir par la main des païens. Et cela répondait à un plan de Dieu qui d'avance avait prévu tout cela. Voilà, Saint Pierre croit au mystère de la Providence. Tout cela répondait à un plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit d'ailleurs aux disciples d'Emmaüs l'après-midi de Pâques. Cette maîtrise de Dieu sur le monde suscite dans le paradis l'admiration des anges et des saints. Ils contemplent ébloui cette souveraineté de Dieu sur le monde. Il vérifie la justesse du mot de l'Écriture, nombreux sont les projets dans le cœur des hommes, mais en définitive, c'est le dessein du Seigneur qui se réalise. Mais encore une fois, nous ne les comprenons pas, et c'est la raison pour laquelle l'Écriture nous dit les pensées de l'homme, les pensées de Dieu sont bien supérieures aux pensées de l'homme. Nous ne comprenons pas. Il m'arrive, le jour d'un enterrement, de dire devant le cercueil du défunt, dans l'assemblée, mes frères, le plus intelligent, c'est le défunt. Parce que, même s'il est encore au purgatoire, il voit la Providence. S'il est mort d'une façon bizarre, il voit que c'est Dieu qui l'a permis pour un bien qui nous dépasse, mais qu'il comprend. Sur terre, nous devons donc nous contenter d'y croire. Je dis bien d'y croire et non pas de l'apercevoir. Alors il peut arriver que nous reconnaissions assez vite la manière dont Dieu fait concourir à notre bien, à celui de nos frères, telle ou telle épreuve de notre vie. Ignace de Loyola n'eut pas de peine à percevoir le rôle joué dans sa conversion par le boulet de canon qui avait abîmé sa jambe au siège de Pamplune. Voilà. Il y a des moments où l'on voit que c'était pour notre bien. Exemple, ce garçon qui fait de la gymnastique, qui se casse le poignet en faisant de la barre fixe dans son école de professeur de gym. Il va à l'hôpital et il est soigné par une magnifique infirmière qui devient sa femme. Ah, si tous les accidents se terminaient par un heureux mariage, on n'aurait pas besoin de croire à la Providence. Non, on la verrait. Et alors on dit, ah, c'était providentiel. On dit ça quand on voit la Providence à l'œuvre, mais il faut continuer à dire que c'est providentiel, même quand on ne voit pas cette Providence. Car bien souvent, Dieu paraît absent. C'est la nuit. Je ne vois vraiment pas pourquoi Dieu ne s'est pas arrangé pour que la bombe qui devait tuer Hitler en juillet 44, elle avait été placée dans cette pièce par les généraux qui avaient fait un complot, qui avaient décidé la mort d'Hitler, elle a été déplacée de quelques centimètres par quelqu'un qui ne savait pas que cette serviette contenait une bombe. Pourquoi Dieu ne s'est-il pas arrangé par un ange pour remettre cette bombe à la bonne place ? Et du coup, Hitler aurait été tué dès juillet 44, la guerre se serait arrêtée bien avant mai 45. C'est bizarre, on ne comprend pas. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrangé pour que les choses se passent pour le bien de l'humanité ? On ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas. On est obligé d'admettre que c'est Dieu qui a raison. Et donc, lorsque j'ai la terrible impression que Dieu m'abandonne, que Dieu ne se débrouille pas pour notre bien, je m'accroche à sa parole qui m'affirme que tout arrive avec la permission de Dieu, que tout concourt au bien de l'homme, chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Ce qui fait dire à Thérèse, tout est grâce. Attention, ça ne veut pas dire tout est bien. Non, non, tout est grâce. Même le mal, Dieu peut en sortir un bien. Et ce qui fait dire aussi à Thérèse, dans une lettre qu'elle écrit à Léonie à la fin de sa vie, l'unique bonheur en ce monde, ma sœur, ma petite sœur Léonie, ma grande sœur Léonie plutôt, l'unique bonheur en ce monde, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. On s'applique, mais ce n'est pas évident, bien sûr. Voilà. Donc, Dieu ne contraint pas ses enfants à profiter de la solution qu'il leur propose pour faire advenir un bien à partir du mal. Il leur propose, ils peuvent décider, hélas, de provoquer un autre mal. Et Dieu leur propose de nouveau un autre bien, un autre moyen de s'en sortir, et ainsi de suite. Un peu à la façon dont un GPS propose un itinéraire de rechange au conducteur qui, par suite d'une distraction, n'a pas pris le meilleur itinéraire indiqué précédemment. Quelle sollicitude de la part de notre Père des cieux! Il est vraiment ce Père dont nous parle inlassablement Jésus dans ses paraboles et dans ses discours. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père du ciel qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et devant ce mystère de Dieu, l'homme éprouve le besoin de se taire. Ce fut le réflexe de Job, lorsqu'après avoir longuement discuté avec Dieu pour essayer de comprendre le mystère du mal, il finit par se taire. « J'ai parlé à la légère, dit-il. Je vais mettre ma main sur la bouche, je ne parlerai pas une deuxième fois. Je n'ajouterai rien, je me tais. » Ce silence de l'homme devant le mystère de Dieu n'est nullement une démission de sa raison, car il a bien compris avec Pascal qu'il est tout à fait normal d'accepter que Dieu soit mystérieux, puisque nous n'arrivons déjà pas à comprendre le mystère de l'homme. Comment, par exemple, l'âme humaine peut agir sur les neurones de notre cerveau? Comment une âme peut agir sur la matière? On n'y comprend rien, et pourtant nous faisons de passer notre vie à le faire. Notre âme est capable de commander à notre corps. Une âme spirituelle est capable d'agir sur la matière. C'est vraiment un mystère. Et un mystère, vous n'avez peut-être jamais réfléchi sur l'étymologie du mot. Le mot mysterion vient du verbe grec muo. Je suis muet. Et ce verbe muo va donner mysterion. C'est quelque chose, on ne sait pas quoi dire. Et le mystique, mysticos, c'est celui qui s'intéresse à ces réalités mystérieuses dont on ne peut pas dire grand-chose. Alors voyons maintenant, d'une façon plus précise, comment Jésus a vécu ce mystère de la Providence. Eh bien, il a été tenté de ne pas obéir à son Père. Ah, c'est énorme ce que je viens de dire. Le Fils de Dieu, infiniment parfait, Dieu, a été tenté de faire le mal? Eh oui, je le disais tout à l'heure, mais nous allons l'approfondir maintenant. C'est ce que nous rappelle le premier dimanche de Carême. La liturgie nous rappelle que Jésus a inauguré son ministère en faisant une longue retraite pour vivre un véritable combat spirituel avec Satan. C'est la préposition utilisée par l'Évangile selon saint Matthieu, au tout début du quatrième chapitre de son évangile. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Un énorme mystère que nous allons méditer, car il nous montre que tout en étant le Fils de Dieu, infiniment heureux, infiniment parfait, incapable de commettre le moindre péché, il a vraiment pris dans le sein de la Vierge Marie un corps et une âme comme les nôtres, un corps de créature capable de souffrir, et une âme de créature susceptible de ne pas avoir envie de faire la volonté de Dieu. Si celui-ci lui demandait de faire quelque chose de difficile, de contraire au désir spontané de tout être humain, s'il lui demande de monter au calvaire. Donc, approfondissons ce mystère de la tentation du Christ. Il a été tenté toute sa vie et plus que nous, c'est ce que nous allons voir. Alors, étant donné la perfection de sa nature humaine, totalement préservée du péché originel, Jésus n'a jamais connu la moindre tentation de commettre un péché de gourmandise, de luxure, de colère, d'orgueil, de vanité. Alors, quel est le péché que Satan suggérait à Jésus d'accomplir ? Eh bien, de se servir de sa puissance extraordinaire de Messie pour accomplir quelques prodiges éclatants devant les foules et les forcer ainsi à croire en lui. Et du coup, il ne serait pas obligé de monter au calvaire, il ne serait pas rejeté par les foules. C'était évidemment très tentant. En agissant ainsi, suggère Satan à Jésus, tu arriveras facilement à persuader tes cousins et tes cousines, tes anciens camarades de Nazareth, que tu es vraiment le Messie annoncé par les prophètes. Tu réussiras la mission pour laquelle tu es venu sur terre. Convaincre tous ceux que tu rencontreras qu'ils doivent croire en toi et en celui qui t'a envoyé. En accomplissant beaucoup de prodiges éclatants, comme tu en as le pouvoir, tu ne connaîtras pas tout ce que les prophètes ont connu. L'échec, l'incompréhension, la moquerie, la persécution et peut-être même la condamnation à mort. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. En conseil trinitaire, Dieu avait décidé de toute éternité que le Messie soit accueilli par les hommes dans une démarche de foi qui soit totalement libre et qui ne soit pas conditionnée par une avalanche de prodiges préalables. Il avait été décidé que le Messie aurait le droit de faire un certain nombre de guérisons étonnantes pour manifester son identité, pour manifester aussi la miséricorde du Père pour ses enfants, mais il n'aurait pas le droit de se servir de sa puissance divine pour accomplir le genre de prodige que Satan allait lui suggérer. Exécuter par exemple un saut périlleux, une espèce de vol plané depuis le pinacle du temple jusque dans la vallée du Cédron. C'est toute sa vie que Jésus va retrouver cette tentation. Imaginons la douleur de Jésus lorsqu'il constate l'incrédulité de tous ses chers voisins de Nazareth. L'évangile selon saint Marc, au chapitre 6, verset 6, nous dit qu'il a été étonné dans son âme humaine de ne pas être bien accueilli dans son village où il avait vécu pendant des années, à donner un témoignage extraordinaire de charité avec Marie et Joseph. Il est étonné de l'incrédulité des gens. Or, il lui suffisait de faire un grand miracle et tout Nazareth était à ses pieds. Fais donc un grand miracle et tout le monde t'applaudira, lui suggère Satan. Toute sa vie, Jésus refuse de le faire. Il obéit à la volonté du Père. Il ne cesse de redire le « oui » que, selon la lettre aux Hébreux, il a dit à son Père en entrant dans le monde, « Me voici pour faire ta volonté. » Un grand texte que les chrétiens du siècle de Louis XIV vont beaucoup méditer, cette obéissance, cette soumission de Jésus à la volonté du Père. Il a accepté dès le début de sa vie d'accomplir sa mission comme les autres prophètes d'Israël, en acceptant l'échec et la persécution, et pour lui, la condamnation à mort, la flagellation, le couronnement d'épines, le chemin du calvaire et la torture de la crucifixion. Et lorsque Jésus reconnaît explicitement pour la première fois devant ses apôtres qu'il est vraiment le Messie annoncé par les prophètes, et qu'il félicite Simon de l'avoir si bien compris, « Oh, ce ne sont pas, c'est pas la chair et le sang, c'est ton Père, c'est le Père du ciel qui t'a donné de croire que je suis vraiment le Messie. » Et alors, à ce moment-là, Jésus commence à dire à ses apôtres que ça va mal se terminer, qu'il va être condamné à mort. Et alors, en attendant cela, Simon, qui vient de recevoir son surnom de Pierre, c'est juste, c'est pas possible, tu te contredis, tu viens de dire que tu es le Messie. Le Messie, c'est la paix, shalom. Va-t'en, Satan. Jésus envoie promener son futur pape, qu'il vient de surnommer Pierre. Je sais ce que j'ai à faire. Tu es en train de ressusciter dans mon esprit la tentation que Satan ne cesse de me proposer. Va-t'en, Satan. Le Messie, c'est pas celui que tu imagines. Le Messie, il doit passer par le calvaire avant de ressusciter. Ne te laisse pas faire. Jésus, écoute, Satan lui dit, ne te laisse pas faire, mais il sait que son père n'est pas d'accord. Et un quart d'heure avant d'être arrêté à Gethsémani, Jésus est encore fortement tenté de ne pas être fidèle à sa mission, puisque lui, ici c'est lui qui demande gentiment à son père s'il ne pourrait pas éloigner de lui la coupe de souffrance qu'il doit subir, car il n'a vraiment pas envie de se laisser arrêter et emmener au supplice. Il pourrait effectivement utiliser sa puissance pour mettre par terre ceux qui vont l'arrêter. D'ailleurs, dans l'évangile selon saint Jean, on voit qu'au moment de son arrestation, les gardes tombent par terre quand Jésus leur dit « C'est moi, celui que c'est moi ». Mais ça ne dure pas. Après, Jésus n'utilise plus sa puissance. Il se laisse arrêter comme un agneau. Il se laisse crucifier. Il se laisse emmener à son supplice, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Il l'a promis à son père à la fin de la longue agonie qu'il a vécue avant son arrestation. « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà. Jésus a donc été vraiment tenté, et pas de temps en temps, mais toute sa vie, de ne pas faire la volonté de son père, de désobéir à son père. Quel mystère, mes frères. Dieu tentait de faire le mal. Entre parenthèses, ça s'est vraiment passé comme cela. Et ça n'a pas été inventé par les apôtres. Osez montrer Jésus, fils de Dieu, être tenté de pécher, de ne pas obéir à son père. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça nous fait comprendre que si nous avons du mal à accepter la volonté de Dieu, Jésus l'a eu autant que nous, et même plus que nous. Pourquoi ? Parce que justement, il était capable de descendre de sa croix. Vous connaissez la réponse que fait un jour un petit bonhomme au catéchisme. « Mes enfants, quel est le plus grand miracle que Jésus a fait sur la terre ?» Et un petit bonhomme de répondre cette réponse, de faire cette réponse magnifique. « Monsieur le curé, il aurait pu descendre de sa croix et il ne l'a pas fait. » C'est très juste. Quand on est capable de marcher sur les eaux, de multiplier pains et poissons, de ressusciter les morts, on est évidemment capable de se laisser, de se déclouer de la croix. Jésus, il est resté attaché à la croix par de lui-même, alors qu'il aurait pu s'en détacher. C'est énorme, ça, voyez. La volonté du Père, c'est qu'il reste attaché à la croix. Et c'est pourquoi les saints peuvent dire que ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus en croix, mais son amour pour le Père. Voilà. Donc, il a vraiment été tenté, tenté plus que nous. Et, troisièmement, il a vraiment prié, supplié son Père de lui donner la force d'être fidèle à sa vocation. Dieu qui prie pour ne pas pécher. Nous ne prions Jésus de ne pas pécher, mais Jésus l'a prié son Père pour ne pas pécher. Il lui a demandé de lui envoyer une overdose d'Esprit Saint pour qu'il soit fidèle à sa vocation, à sa mission. Et c'est ce qu'il fait, après avoir multiplié miraculeusement pains et poissons pour nourrir la grande foule qu'il avait écouté parler pendant des heures. Il se retire dans la montagne pour prier. Et il est facile de deviner ce qu'il demande cette nuit-là à son père, la force de résister une fois de plus à Satan, qui lui suggère certainement de refaire souvent des multiplications de pain pour plaire aux foules et les convertir. Alors que le lendemain, il devait, dans la synagogue de Capharnaüm, parler de son grand projet, donner son corps à manger et son sang à boire pour le renouvellement complet du cœur des hommes. Une annonce, il le savait, qui allait mal se terminer, car la plupart des disciples se sont dit alors, il perd la tête, il devient fou, il va donner son corps à manger et son sang à boire. Mais quelle idée! Et Jésus est fidèle à ce qu'il doit faire, il annonce ce grand mystère de l'Eucharistie, au risque de déplaire énormément à son auditoire. Sans cesse, quand il vivait au milieu de nous, Jésus a dû supplier son Père comme un pauvre, comme un mendiant, pour recevoir la force et le courage d'accomplir la volonté du Père, d'annoncer sans peur ce qu'il devait annoncer, au risque de mécontenter beaucoup de monde et de marcher résolument sur le chemin du calvaire, sans le quitter une seule seconde. Voilà. Et c'est ce qui fait dire au cardinal de Bérulle, ce grand mystique du XVIIe siècle, qui a notamment aidé saint Vincent de Paul à devenir ce qu'il est devenu, un saint. Jésus a vraiment été le grand adorateur du Père. Avant la venue de Jésus sur la terre, personne n'adorait le Père vraiment comme Jésus l'a fait. C'est-à-dire, adorer, ce n'est pas seulement se prosterner en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est se prosterner en acceptant de faire la volonté de Dieu sans la comprendre. Voilà. C'est difficile d'obéir à un ordre quand on n'en comprend pas la nécessité, la légitimité. Adorer, ce n'est pas seulement se prosterner devant un tabernacle, c'est accepter que Dieu mène le monde à sa façon et non pas de notre façon. Voilà. Donc Jésus a vraiment vécu, a fait la volonté du Père toute sa vie, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, en acceptant de rester sur sa croix au lieu de s'en détacher. Et alors, cette obéissance à la volonté du Père, il l'a fait passer dans notre cœur. C'est lui, c'est parce qu'il vient en nous et qu'il déverse en nous l'Esprit Saint que nous pouvons dire, nous aussi, Père, que ta volonté soit faite. C'est ce que le prêtre nous rappelle avant de nous faire réciter le Notre Père, un quart d'heure avant la communion. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, Père, que ta volonté soit faite. C'est quelque chose qui dépasse nos forces. Nous sommes faits pour accepter la volonté de Dieu. C'est naturel, c'est normal, mais en même temps, c'est surnaturel. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à le faire sans le secours explicite de l'Esprit Saint que Jésus nous communique. Jésus était le seul homme, et Marie la seule femme, à réussir à toujours adorer le Père en faisant sa volonté. Voilà. Et alors, c'est comme ça qu'une Madeleine d'Elbrel arrive à dire dans l'un de ses écrits qu'il faut reconnaître la volonté de Dieu à travers les plus petites choses. Il n'y a pas de peine de hasard, dit-elle. Il n'y a que notre volonté qui est de hasard et qui ne veut pas toujours sa peine et qui la lésine et qui la marchande et qui la bâcle. Il y a une peine bien faite comme il y a un ouvrage bien fait, comme nous avons notre travail à faire. Et on peut très bien faire son travail et ne pas faire très bien sa peine. Et elle continue, « Quand nous attendons un train qui n'arrive pas sur le quai de la gare, où l'on a froid, en plus de cette intégration à la volonté de Dieu, nous devenons par notre peine des donateurs de la grâce de Dieu. Vous direz que tout cela, c'est de toute petite peine, mais on reconnaît un artiste aussi bien dans sa façon de jouer un morceau d'enfant que dans le plus difficile des concerts. » Eh oui. Et alors, il nous reste à voir, à la fin de cette conférence sur la Providence, qu'en obéissant à la volonté de son Père, Jésus offre à son Père un sacrifice qui va mériter le salut du monde. Jésus, en disant oui à son Père, lui offre la plus belle chose qu'il puisse offrir à son Père. Ce oui, cet amen, eh bien, c'est ce que Jésus offre à Jésus, c'est ce qu'on appelle le sacrifice du calvaire que Jésus est venu accomplir sur terre. Car n'oublions pas que Jésus n'est pas venu seulement annoncer un certain nombre de choses, des bonnes nouvelles. Il est venu accomplir lui-même quelque chose de difficile. Enfin, obéir parfaitement à son Père, malgré la difficulté de cet accomplissement, malgré la difficulté de ce oui. Et c'est ce oui que Jésus ne cesse de dire dans le ciel et sur les autels de nos Eucharisties. Alors, je voudrais un moment vous rappeler ou vous faire découvrir que c'est un fameux mystère, ce sacrifice de la croix. Pourquoi ? Parce que c'est quand même bizarre qu'il a fallu que Jésus offre ce sacrifice à Dieu pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Dieu est essentiellement miséricorde. Les Juifs croient que Dieu est miséricorde et ils ne croient pas au sacrifice du calvaire. Dieu est tellement amour qu'il ne demande qu'à pardonner. Pourquoi a-t-il voulu que Jésus vienne sur terre lui offrir un sacrifice en réparation de nos péchés? Quand je célèbre l'Eucharistie, après avoir proclamé l'évangile de l'enfant prodigue, j'ai conscience que de faire en célébrant la messe quelque chose qui semble contraire à la parabole de l'enfant prodigue. Dans la parabole, le père pardonne gratuitement à son enfant. Il ne lui dit pas « qu'est-ce que tu vas faire en échange ?» Non, le pardon est gratuit. Donc, l'offrande du Saint-Sacrifice, du sacrifice de la croix, semble contraire à la gratuité du salut. Non, ce n'est pas contraire. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a du plaisir à donner, mais il a du plaisir à recevoir. Pour que Dieu puisse faire descendre son pardon sur le monde, il fallait que Jésus dise à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, Dieu ne donne jamais quelque chose sans que l'homme puisse faire quelque chose pour le recevoir. Dieu veut que nous collaborions à ses dons. Il veut que nous puissions faire quelque chose en réponse à son amour. C'est parce que Jésus a supplié son Père, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que Dieu a pardonné. » Bien sûr qu'il ne demande qu'à pardonner, mais il ne pardonne que si l'homme fait quelque chose. Et pour réparer toutes les désobéissances, toutes les rouspétances, tous les blasphèmes des hommes, Dieu offre à son Père quelque chose qui va lui plaire énormément et qui compense abondamment tous nos blasphèmes. C'est le mystère de Jésus qui offre un sacrifice à son Père en réparation de tous les péchés du monde. Tous les livres du Nouveau Testament, à commencer par les Évangiles, affirment clairement que Jésus a versé son sang en rémission des péchés du monde. Et le pape Benoît XVI reconnaît dans son livre « Jésus Nazareth » que cette idée de réparation a du mal à passer dans la mentalité moderne, tellement nous insistons à juste titre sur la gratuité de la rédemption, sur la gratuité du pardon de Dieu. Mais ce n'est pas, contraire, c'est tout à fait complémentaire. C'est un Dieu qui aime donner, pardonner, mais qui aime aussi par amour, parce que c'est un véritable Père. Il aime recevoir quelque chose de ses enfants. Et Jésus offre à son Père, au nom de toute l'humanité, quelque chose qui répare abondamment les péchés des hommes. Et c'est pourquoi Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Et la lettre aux Hébreux explique que tous les sacrifices sanglants offerts pendant des siècles dans le temple de Jérusalem préfiguraient le sacrifice que Jésus offrirait à son Père quand l'heure en serait venue. C'est aussi ce que dit explicitement saint Jean. Dieu est amour, Dieu est agapé. Mais comment Dieu nous a-t-il manifesté son amour, son agapé? Pas seulement en nous pardonnant nos péchés, mais, dit l'apôtre deux versets plus loin, Dieu nous a manifesté son amour en envoyant son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Et c'est pourquoi, sur une icône de la Nativité, c'est un autel qu'on dessine à la place du berceau de la crèche. L'enfant qui vient de naître, c'est le Sauveur. Et comment nous a-t-il sauvés ? En mourant sur la croix, en acceptant la volonté du Père. Alors, bien sûr, on ne dira jamais assez. Ce n'est pas la souffrance de Jésus qui plaît à Dieu, bien sûr. Comment Dieu pourrait-il aimer voir son Fils souffrir sur la croix ? Mais c'est ce oui parfait que Jésus offre à son Père qui le plaît et qui répare nos péchés. De même, nous verrons dans une autre chronique, dans une autre conférence, que Jésus va donner à toutes nos souffrances la possibilité de devenir des sacrifices qui plaisent à Dieu. C'est la fécondité de nos croix. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons des croix au carrefour de nos villages ou sur la tombe de nos défunts pour nous rappeler cette mystérieuse fécondité de nos croix lorsque nous les offrons à Dieu en union avec le sacrifice de Christ. En effet, ce sacrifice, ce vie, Jésus continue à l'offrir dans le ciel. Celui qu'il a offert tout au long de sa vie, il continue à l'offrir dans le ciel. La lettre aux Hébreux évoque cette liturgie céleste dans laquelle Jésus est à la fois prêtre et victime. Son corps crucifié est maintenant ressuscité. Il l'offre éternellement pour nous en sacrifice. Père, regarde l'obéissance pleine d'amour de ton Fils. Pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient en me condamnant à mort. Et le livre de l'Apocalypse nous montre également cette liturgie céleste dans laquelle les anges et les saints chantent le crucifié ressuscité, s'offrant en sacrifice à son Père sous la figure d'un agneau égorgé mais ressuscité. Et ce sacrifice que Jésus ne cesse d'offrir à son Père dans le ciel, il l'offre sur tous les autels de nos Eucharisties, pour que nous puissions nous aussi offrir à Dieu ce corps et ce sang de Jésus, ce magnifique sacrifice qui réconcilie les hommes avec Dieu. C'est ce que fait le prêtre au nom de l'Assemblée dans la prière qui suit immédiatement la consécration. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Nous sommes sauvés, pardonnés grâce à la miséricorde du Père, mais grâce aussi au sacrifice que Jésus a offert en réparation de nos péchés. Il faut dire les deux. Et nous verrons combien nous sommes heureux d'offrir nous aussi nos petits actes d'amour, nos sourires, nos vies, en union avec le oui de Jésus. Par lui, avec lui et en lui, chante le prêtre à la fin de la prière eucharistique. Père, nous t'offrons tous les sacrifices que nous avons faits cette semaine ou que nous ferons la semaine prochaine en réparation de tous les péchés du monde. Et c'est par Jésus que nous arrivons à chanter la belle prière d'abandon du père de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Alors nous verrons longuement la fois prochaine que nous aussi nous pouvons faire cet acte d'abandon à la volonté de Dieu quand il nous arrive quelque chose de difficile. Quand la petite Thérèse apprend que son père est entré dans un asile où il est traité comme un, un fou semi-dangereux. Mon cher papa, il est dans un asile de fous. Elle y voit la volonté de Dieu. Et comme elle a pris depuis quelques semaines le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, eh bien, elle se dit « Oh, mais c'est pas mal du tout, finalement, parce que papa, il ressemble à Jésus. Sa face est défigurée, comme la face de Jésus a été défigurée pendant sa passion. » Donc, cette maladie terrible, cette maladie mentale de papa, c'est la volonté de Dieu. Je dois l'accepter comme la volonté de Dieu. Mais j'ai le droit, évidemment, d'en être triste. C'est pas parce qu'on croit que c'est la volonté de Dieu que la souffrance disparaît, que la tristesse disparaît. On peut souffrir avec tristesse, a-t-elle bien compris ? C'est son père spirituel qui écrivait cela. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait ? Bien sûr qu'il faut toujours être joyeux, mais c'est une joie dans le fond du cœur, c'est la paix que Jésus nous promet. Si nous vivons en lui, nous verrons ça la fois prochaine. Mais cette paix est compatible avec la souffrance. On n'est pas encore au paradis. Ce n'est pas parce que l'on croit que c'est la volonté de Dieu que cette volonté devient un long fleuve tranquille. Non, les chrétiens essayent de vivre perpétuellement cette espèce de gymnastique, de conserver la paix dans le fond du cœur, même s'ils sont terriblement affectés par un événement qui contrarie leur projet, qui contrarie leur bonheur sur terre. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous suffisamment l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à avoir la courbure nécessaire pour que nous reconnaissions ta volonté d'amour à travers nos épreuves. Par lui, avec lui et en lui, amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, amen. Ainsi se termine la prière eucharistique de la messe, l'un des sommets de la liturgie. Offrir à Dieu, en union avec le sacrifice du Christ, tous les sourires minuscules silencieux que nous réussissons à lui offrir à travers nos masques de confinés.